Alors je disais que on va commencer Bezrat Hashem notre troisième cours sur le chapitre 44. Nous sommes à la page 298. Le chapitre 44 est un chapitre qui est entre autres dédié à l'importance de l'amour de Dieu. Donc on a eu l'occasion de développer pas mal de choses, d'expliquer que l'amour de Dieu, c'était pas aussi simple que ça en avait l'air. Que aimer Dieu, en vérité, ça demande un effort considérable pour tout mettre de côté pour Akadosh Baruch Hu, pour Dieu. On a expliqué ça longuement. Et on avait donné un exemple qui était très fort. On a dit de la même façon qu'une personne qui veut manger, il n'a pas besoin de se convaincre qu'il doit manger. C'est inné en lui, c'est dans son instinct qu'il doit manger. De la même façon, lorsqu'on parle d'aimer Dieu, on devrait tellement vivre l'amour de Dieu que ça devrait être une forme d'automatisme, que automatiquement, en moi, j'aime Dieu et je ne peux pas me détacher de Dieu tellement je l'aime. Alors, la semaine dernière, on a terminé par une question. Une question qui est une question très forte, qui dit, est-ce que finalement, on n'est pas en train de chercher quelque chose, un but qui est inatteignable? Est-ce qu'on n'est pas en train de s'auto-suggérer, de dire qu'on va arriver à quelque chose, alors qu'on n'y arrive pas? Alors, on a terminé la semaine dernière en disant une chose très forte. On a rappelé un principe qui dit que Hergel Naase Teva. Que l'habitude devient
naturelle.
Une seconde nature. Ça veut dire que même si lorsqu'on est, on n'a pas forcément une bonne nature, des fois on est avec un mauvais caractère, et des fois on n'aime pas forcément quelque chose ou quelqu'un, mais à force de répéter et de dire, c'est avec moi, c'est bon, à force de répéter et de dire qu'on aime quelque chose, Hergel Naase Teva, l'habitude devient une seconde nature. Je vais vous raconter une histoire pour illustrer ça. On raconte que lorsque l'Admour HaZaken, l'auteur de ce livre, a commencé à diffuser le message de la Chassidut, on raconte qu'il y a eu des gens, des rabbanim. C'est bon, on est prêt? On raconte qu'il y a eu des rabbanim qui sont venus se plaindre. Il y a eu des rabbanim qui sont venus se plaindre et qui ont dit à l'Admour HaZaken, qui l'ont dit, on a un problème avec vos chassidim. Vos chassidim, ils sont là, ils s'habillent comme des gens pieux, ils marchent comme des gens pieux, ils parlent comme des gens pieux, ils font comme si qu'ils sont des gens pieux, alors que nous, on est des rabbanim, et on pense que vos chassidim ne sont pas exactement ce qui donne l'image d'être. C'est une question que les gens ont souvent sur les gens religieux, ça. Ils disent qu'ils se la jouent alors qu'ils ne le sont pas.
Ils dépassent leurs prérogatives.
Alors, l'Admour HaZaken, Morazaken, il a répondu, il a dit, dès qu'il a entendu ça, il a dit, ah bon, c'est ce que vous dites? Il a dit, dans ce cas-là, c'est un très bon signe. Pourquoi? C'est-à-dire qu'il a accepté l'argument, que c'est vrai que parfois, un chassid, des fois, il donne une impression de ce qu'il n'est pas. Vous savez ce que dit l'Admour HaZaken? Morazaken, il a dit, il y a une Mishnah qui dit comme ça. Il y a une Mishnah qui dit que celui qui n'est pas aveugle, celui qui n'est pas sourd, celui qui n'est pas boiteux, d'accord? Et qui fait comme si qu'il était sourd, qui fait comme si qu'il était boiteux, qui fait comme si qu'il était non-voyant. Il finira par le devenir. Et donc, dit l'Admour HaZaken, si ce principe est applicable pour des défauts, c'est-à-dire que celui qui fait comme si qu'il a un défaut alors qu'il ne l'a pas, ben la Mishnah dit, il ne finira pas sa vie tant qu'il ne sera pas atteint de ce défaut. Alors, je parle pas dans le cas d'un théâtre, je parle de quelqu'un qui fait comme si, vous savez, comme vous avez des fois dans les feux rouges, bon, un qui fait comme si qu'il a pas de bras, un truc comme ça, bon, c'est comme, d'accord? Alors, bon. Donc, la Mishnah te dit.
Ils ont vraiment pas de bras.
Mais non, ils ont, bien sûr qu'ils ont des bras.
Souvent, ils ont vraiment.
Ah, bien sûr qu'ils ont des bras. La Mishnah te dit la chose suivante. La Mishnah te dit.
On les voit dans les réseaux sociaux.
Celui qui fait comme si, qui est aveugle, alors qu'il ne l'est pas, il finira sa vie avec Rasé Shalom. Dit l'Admour HaZaken, si c'est valable pour un défaut, à plus forte raison que c'est valable dans le bien. Que si quelqu'un, il se joue chassid, alors qu'il ne l'est pas, alors il finira sa vie chassid. Et de la même façon, on a posé la question la semaine dernière, mais on va développer encore. Est-ce que quelque part, on n'est pas en train de simuler? T'es en train d'aller en train de dire que tu aimes Dieu, tu aimes, alors que peut-être au fond de toi, t'as un sentiment qui te dit que tu sens rien de tout ça. Te dit l'Admour HaZaken, il te dit c'est pas grave. Pourquoi c'est pas grave? Parce qu'à force de te répéter, de répéter, ça finira par rentrer. Et je vais vous dire, ça c'est un exemple qui ne vient pas du rabbi, ça. Hein. Vous savez, dans le, chez les communistes, et d'ailleurs les journalistes d'aujourd'hui, ils ont été tous formés dans ce système, on te dit, répète un mensonge jusqu'à qu'il devienne une vérité. C'est un grand principe dans le journalisme. Qu'à force de répéter un mensonge, bien sûr, à force de répéter un mensonge, il finit par devenir vrai. Alors moi j'ai envie de vous dire, si déjà c'est valable dans les forces du mal, qu'à force de répéter un mensonge, il devient vrai. Moi j'ai envie de dire, à force de répéter une vérité, on finit à y adhérer. Maintenant, même si tu dis oui, mais je dis une vérité que je suis pas dedans, je sens pas que ça me parle. Je dis que j'aime Dieu, je dis que je suis religieux, mais je sens pas que je suis religieux.
J'applique la même méthode.
On te dit, exactement, t'appliques la même méthode. On te dit, à force de répéter, l'habitude devient une seconde nature. Ça, c'est un grand principe, ça. Qu'à force de s'habituer à quelque chose, ça devient ma seconde nature. Donc, à force de m'habituer à faire mon Shabbat, à faire ma Torah, à faire mes mitzvot, à aimer Dieu, eh ben, je finis par le devenir. Donc, faut pas désespérer. Des fois, le Yetzara, il t'attaque. Le Yetzara, il t'attaque pas à 14h. Le Yetzara, il t'attaque pas à 21h. Le Yetzara, il t'attaque à 3h du matin. Et il te dit, c'est qui le vrai Mendy Assouline?
Je dors, moi, à 3h du matin.
Hein? Tu t'es réveillé à 3h du matin pour aller aux toilettes.
Moi, il me réveille.
Et là, le Yetzara, il dit, maintenant, on va voir à quoi tu penses maintenant. Ah, c'était pendant la journée, bon, t'étais occupé la journée. Maintenant, à quoi tu vas penser maintenant? Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Alors toi, tu te forces. Tu te forces à penser les paroles de Torah, des paroles de Mitzot, etc. Là, le Yetzara, il te dit, à qui tu racontes des histoires? Tu peux arnaquer le monde entier, mais toi, tu vas pas, moi, tu vas pas m'arnaquer. Moi, je te connais mieux que tout le monde. Ça, c'est, et ça, c'est la question que pose Admorazaken. Dans d'autres mots, évidemment. Alors, Admorazaken répond à cette question en deux paliers. Premier palier, je viens de le dire. Il te dit d'abord, il n'y a pas de mytho. Faut se dire que, au fond de moi, j'aime Dieu, je fais qu'essayer de le développer, et à force de m'habituer à ça, je finirai par vraiment le sentir. C'est la première chose. Maintenant, des fois, et ça, c'est un point très sérieux, il y a beaucoup de balais de chouas qui m'ont déjà dit ce point. Des fois, on a l'impression qu'on simule. C'est une notion très importante, ça. Vous savez qu'il y a la notion de simuler, ça existe aussi dans la relation entre un homme et une femme. Des fois, un homme, il dit à sa femme, il dit « je t'aime, ma chérie », etc. Et au fond de lui, il sent qu'il simule, qu'il raconte n'importe quoi. Qu'il dit des choses, qu'il dit ce qu'elle a envie d'entendre. Bon, très bien, elle a envie d'entendre, « j'ai un bouquet de fleurs », elle va dire « je t'aime, ma chérie ». Mais il sent qu'il n'est pas là. Il sent que c'est du dimion. Est-ce que c'est le dimion? Pas le nom. Il y a des gens qui ont peur du mot dimion. Dimion, ils s'imaginent que c'est les démons. Dimion, c'est l'imagination. Et là, il s'arrête, il te dit, bon, d'accord, tu me racontes tes histoires. Avec le temps, l'habitude devient une nature. Dimion. C'est de l'imagination. Et ça me dérange, ça. Parce que quand tu sens que finalement, tu dis un message qui n'est pas ton message, quand tu sens que tu racontes à tout le monde, tu racontes à ta femme, tu racontes à tes enfants, tu racontes à tes amis, tu leur racontes j'aime Dieu, tu leur racontes j'aime la Torah, et que parfois, des fois, au fond de toi, il y a un niveau dans lequel tu t'es pas forcément là. Donc tu te dis, est-ce que je suis pas forcément un menteur, ou peut-être pas un menteur, mais un rêveur, ou un, je sais pas moi, un fantassin, quelqu'un qui est là, bah oui.
C'est se mentir à soi-même aussi. Hein.
Non, c'est pas forcément mentir, c'est que je dis quelque chose que je ne suis pas là-bas. Donc ça s'appelle s'auto-suggérer.
Autosuggestion.
Ok? Est-ce que c'est pas ça? C'est la question que pose Admorazaken. Fait af, donc là je suis à la page 298, en bas de la page. Ve af imnidmelo lichora. Même si il a l'impression, a priori, chez hu koar dimioni. Rappelez-vous. On parle ici, pour ceux qui sont occupés avec le ton, on parle ici d'une personne, d'accord? On parle ici d'une personne qui essaye de se convaincre et de penser à Dieu, à quel point il aime Dieu. Il essaye de se convaincre qu'il aime Dieu, que Dieu c'est bon, que Dieu c'est bien, et que Dieu c'est intéressant, et que la Torah c'est bien. Et à un moment, il sent que c'est Kohar Dimioni. Il sent que tout ça, c'est Dimioni, c'est une force qui est imaginaire. Vous savez, on dit comme ça. On dit que les chassidim, ils donnent un exemple. Ils disent, c'est quoi une force imaginaire? C'est comme l'ombre.
L'ombre.
Est-ce qu'on peut attraper une ombre? Non. Tu peux pas attraper une ombre. Des fois, t'as l'impression que quand tu fais tchouva et que tu parles de l'amour et de la crainte de Dieu, t'as l'impression que c'est comme une ombre qui te suit. Donc, tu essaies de l'attraper, mais tu sens que c'est pas là. Tu sens qu'il y a rien du tout. T'attrapes rien du tout. Donc, à un moment, tu te dis, écoute, il y en a marre. À quoi ça sert d'être là, de faire le mytho? À quoi sert d'être là, de simuler? Je suis pas là, c'est pas moi. Ça me sert à rien, c'est pas moi. Ça, c'est la question qu'il pose ici. Ça veut dire qu'au fond de lui, peut-être qu'un juif, il sent qu'il n'a pas peur de Dieu, qu'il n'a pas honte de Dieu et qu'il n'aime pas Dieu. C'est pas négatif. Non, attends, dis pas Chas et Shalom. Dis pas si vite Chas et Shalom. J'ai pas dit que je déteste Dieu.
Dieu nous en préserve.
Je dis qu'il y a peut-être un niveau au fond de nous dans lequel ça me parle pas. Ça me parle pas, tout ça.
Oui, il y a beaucoup de gens comme ça.
Bien sûr, mais moi, c'est pas ça qu'il y a beaucoup. On est tous comme ça. Ouais. D'un certain point, on est tous comme ça. Mais on c'est sûr. Non. À certains points, on est tous comme ça. On fait des choses dans lesquelles on n'est pas vraiment dedans.
Des fois, machinalement.
Quoi. Machinalement. Et quand, vous savez, quand vous rendez compte de ça, quand un enfant il te pose la question, il dit papa, pourquoi tu fais ça? Et c'est là que tu dis, mais c'est vrai, pourquoi je fais ça? Alors tu peux lui carotter à ton fils, tu peux lui raconter ce que tu veux, tu veux dire je fais ça parce que si, parce que ça. Mais tu peux pas mentir à un enfant. Donc c'est là que tout de suite tu te reprends, tu dis, mais attends, qu'est-ce que je viens de lui dire là? Et là, tout de suite, tu te recadres. Tu dis là de Morazaken, si ton Etzahara il t'attaque avec l'argument suivant, qui est un bon argument ou pas? Le Etzahara il te dit, c'est du dimion tout ça. C'est de l'imagination tout ça. Tu t'auto-suggères des choses que tu n'es même pas là-bas. Tu t'auto-suggères que tu aimes Dieu, que tu kiffes ton judaïsme, alors que t'es pas dedans, t'es ailleurs. C'est pas ça ton centre d'intérêt. Dis la de Moraz, bien sûr, c'est qui alors? Dis la de Morazaken, lo yachush. C'est pas grave. Fais pas attention à ça. Pourquoi tu fais pas attention à ça? Pourquoi? Il dit, mais achar chez où emet la mito mitzadatmo. Parce qu'en vérité, au fond de toi, tu aimes Dieu. Vous me suivez? C'est pas qu'on est en train de te dire qu'au fond de toi, tu sais pas si tu aimes. Tu te suggères que tu aimes. Donc c'est pour ça, moi, tu dis, bon, bah, écoute, à un moment, il faut bien crever l'abcès. Est-ce que j'aime ou j'aime pas? Je te dis, ça, c'est pas de ça qu'on parle. Au fond de toi, tu aimes Dieu. Et le fait que tu t'auto-suggères, tu ne fais que t'auto-suggérer une réalité qui est déjà vraie. Au fond de toi, tu aimes Dieu déjà. Oui, voilà, donc tu fais que la réveiller. Et ça, c'est un point très important. C'est-à-dire, si effectivement, on n'est pas sûr qu'un juif au fond de lui, il aime Dieu, là, j'aurais dit, écoute, quand à un moment tu sens que t'es un mytho, il faut t'arrêter. Il faut arrêter, on n'est pas des menteurs ici, on n'est pas là pour mentir. Si tu es là, tu es là, tu n'es pas là, tu n'es pas là. Mais si ton but c'est de réviser et c'est de ressortir quelque chose qui est en toi, là, tu l'as de Morazaken, c'est pas grave. Parce que tu ne fais que sortir quelque chose qui est en toi. Rak, chez toi, page 299, je vais accélérer un petit peu. Rak seulement, chez toi, elle, t'y a la guille, ou qu'aidé, la vie à l'idée masse, et chez où, et sec, à Torah, monsieur le Mekamedze, qu'aidé, la sonne, nachadrou, ar, fanavid barer, qu'éven, ovet, ta vive. Te dis, là, de Morazaken, il te dit finalement, où est le problème? Moi, je veux me convaincre que j'aime Dieu. Bon. Et si j'aimais pas Dieu? Ça n'existe pas, tu aimes Dieu. Ce qui peut arriver, c'est que tu es en train de t'auto-suggérer que ton amour est dévoilé, alors qu'il ne l'est pas. Mais tu aimes Dieu. Tu vois, c'est pas que je m'auto-suggère que j'aime les crackers, alors que peut-être je ne les aime pas. Là, on te dit, au fond de toi, tu les aimes déjà. Seulement, tu ne les sais pas. Alors, tu vas t'auto-suggérer que tu les aimes. Mais en vérité, tu les aimes déjà. Donc, c'est pas un mensonge. C'est pour ça qu'un juif, il doit pas hésiter à s'auto-suggérer des choses.
Donc finalement, c'est la seule façon de
réveiller. Eh oui. Bien sûr. C'est la raison pour laquelle je donne un exemple. Quand tu vas voir un juif, je vais expliquer jusqu'à où ça va. Lorsque, par exemple, tu vas voir un juif qui n'est pas religieux, et tu vas lui dire, viens mettre les tefillines, mon frère. D'accord? Réponse classique. Alors, il y a deux types de réponses. Premier type de réponse, c'est je suis juif dans le cœur. D'accord? Bon, autre réponse, je les ai mises hier.
Ou bien,
que c'est va te répondre, il va dire, écoute, je le sens pas. Et des fois, des gens qui répondent, je le sens pas. Dis-moi, je suis pas à ce niveau-là. Et c'est un bon argument. C'est un bon argument. Quand vous sortirez tout à l'heure du Beit Rabad, vous verrez, il y a un nouveau panneau qui a dit, vous pouvez mettre les tefillines ici. Vous verrez, c'est en train de l'installer, là. Ça veut dire, on propose, je vais mettre les tefillines. Mais des fois, j'ai qui va dire, écoute, je suis pas là. Je suis pas à ce niveau-là. Qu'est-ce que tu réponds à ça? C'est un bon argument. Il n'aime pas mentir. Il a dit, j'ai pas envie de mentir, j'ai pas envie de faire le religieux, mettre les téfilines, etc., arborer mon bras. Je suis pas là, je suis pas à ce niveau-là. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Là, c'est la réponse. Si, au fond de toi, on sait pas si tu es Dieu ou pas, là, on t'aurait dit, écoute, d'abord, tu fais l'ordre dans ta tête, tu te convaincs où tu te situes, après, tu avances. Sinon, c'est comme, excusez-moi de l'exemple, mais c'est comme un homme qui passe à l'acte alors qu'il sait pas s'il aime la personne. Alors, dis, papa, ça se fait pas, on fait pas des choses comme ça, c'est assourd. D'abord, tu vas où tu vas, après, tu avances. On est d'accord? Donc la même chose avec Dieu, c'est qui ce monsieur? Il dit, mais attends, pourquoi tu veux que je vais là, je fais une mitzvah? Je suis en train de faire l'acte, mais je sais même pas si où j'en suis avec lui. J'ai raison, c'est un bon argument. Sauf qu'on te dit, tu n'as pas le bon argument. Parce que là, en vérité, au fond de toi, tu aimes déjà Dieu. C'est pas que tu vas essayer de voir ce que tu aimes ou tu aimes pas. Tu aimes déjà Dieu. On fait que dévoiler quelque chose que tu n'as pas dévoilé encore, mais qui est déjà en toi. Donc, n'aie pas peur de simuler. Même si tu sens que tu simules un peu, c'est pas grave. Parce que tu ne fais que simuler quelque chose qui est vrai. Qui n'a pas encore été dévoilé. C'est-à-dire que la seule marge de simulation, c'est est-ce que je sens ce que je dévoile ou est-ce que je sens pas ce que je dévoile. Mais de toutes les façons, c'est du vrai. D'accord? Donc c'est pour ça, il faut pas hésiter, il faut avancer. Et même si des fois, moi il y a des fois, plusieurs fois des gens qui m'ont parlé de ça. Surtout les jeunes, vous savez, les jeunes. Quand on parle avec les jeunes hommes d'ici, les jeunes hommes aussi, je suis plusieurs jeunes hommes aussi dans le Beit Rabbah, du 5e arrondissement. Il y a souvent des jeunes qui ont l'air religieux, qui se mettent des tefillin, qui font Shabbat, etc. Et qui, ils passent par une phase de blackout. Ça veut dire qu'ils passent par un grand vide. Un grand passage à vide. Ils continuent à faire les mitzvot, ils continuent à faire la synagogue, mais ça les dérange parce qu'ils sentent que ils sentent qu'ils vivent pas vraiment ce qu'ils font et ça les dérange. Donc ils ont envie d'arrêter. C'est un grand piège de Sarah. Et Sarah il dit écoute, comme le Sarah il croit que c'est comme une relation avec une fille, tu vois, il dit bon quand on sent plus, on arrête, on attend qu'on j'attends de voir plus clair. Ça marche pas comme ça avec Dieu. Parce que tu l'aimes toutes les façons. Même si tu es fâché avec lui, tu l'aimes. On peut pas être fâché avec Dieu. On peut pas faire de break avec Dieu parce qu'on est pas. On peut pas être fâché. Tu peux être fâché avec Dieu, mais tu l'aimes quand même. Un juif peut pas arrêter d'aimer Dieu. Ve'alze amrou, et sur ça les chachamim m'ont dit. Je suis en bas de la page 299. Ve'alze amrou, sur ça les chachamim m'ont dit. Machashava tova, une bonne pensée. Akadosh baruch hu metzarfa le maase. Dieu la joint à l'action. Ah, ça veut dire quoi? Ça veut dire comme ça. Ça veut dire qu'Akadosh baruch hu te dit. Toi, quand tu essayes d'être là et de sentir ce que tu fais, tu vas être là, tu vas commencer à sentir, à rester dans le coup, à être dans le coup. Alors, toi, tu as une bonne pensée, mais peut-être tu n'es pas dans le coup. Dieu, il te dit la chose suivante. Il te dit une bonne pensée, je l'associe à l'action. Lorsqu'une personne a une mauvaise pensée, une pensée de faire une avéra, tu dis, bon, tu as une mauvaise pensée, si tu veux passer à l'acte, tu passes à l'acte, tu veux passer à l'acte, moi, je ne te pousserai pas à l'acte. J'explique ce que ça veut dire. Tu veux dire comme ça. Quelqu'un qui a une mauvaise pensée, il dit, j'aurais aimé faire une telle avéra. Tu dis, bon. Tant que ça reste dans ta pensée, c'est assourd. Moi, je te pousserai pas à l'acte. Ça reste dans ta pensée, tu veux en parler, tu en parles, tu veux faire, tu fais. Mais quand c'est pour une mitzvah, Dieu, dès qu'il voit que t'as une bonne pensée, il te pousse à l'action.
Il te pousse?
Oui, il te pousse.
Donc il faut quand même réagir.
Donc ça veut dire qu'il s'arrange. C'est-à-dire quand par exemple tu dis, tiens, ça serait pas mal si je fais une mitzvah comme ça. Comme par hasard, deux jours plus tard, tac, ta mitzvah passe devant. Tu dis, mais d'où, comment tout d'un coup? Parce qu'en vérité, c'est écrit dans la Gemara, qu'Akadash Baruch, quand il sent qu'un homme, il a une bonne pensée, il lui met des occasions dans sa route pour lui proposer la mitzvah qu'il avait dans sa tête. Pour l'avéra, c'est pas comme ça. Des fois, quelqu'un il dit, tiens, pourquoi pas, j'aurais aimé faire une avéra avec telle femme. Dieu, il te mettra pas la femme sur ta route. Tu vas la chercher, tu peux la chercher, c'est ton problème. Mais Dieu, il te la mettra pas. Pourquoi? Parce que Dieu ne t'associe pas une pensée, une mauvaise pensée à une avéra. Alors que, une action. Alors que pour le bien, c'est comme ça. C'est pour ça qu'on te dit de la façon suivante. On te dit, lorsque tu es là en train de simuler, lorsque tu es en train de penser, en train de t'y croire, alors que vérité tu n'es pas vraiment dans le coup, c'est pas grave, parce qu'à force de simuler, tu vas être dedans. Moi, une fois j'ai parlé de ce cours hein, avec un jeune, il m'a donné un exemple d'une réalité que je connais pas, mais qui va peut-être vous parler à certains, en tout cas pour un passé. Il m'a dit, on a un principe chez les jeunes quand on arrive en boîte de nuit, que des fois tu viens, t'es pas dans l'ambiance. Alors qu'est-ce que tu fais? Non, il y en a qui boivent. Non, mais c'est pas bien, ça. D'accord? Ça sert à rien parce que tu tombes. Qu'est-ce que tu fais? Il m'a dit, tu te demandes, commence à danser. C'est intéressant comme exemple parce qu'on parle de Simchat Torah et tout. Il m'a dit, ça c'est un principe. En 30 ans, il a fait de Shuvah au Hashem. Il m'a dit, tu commences à danser, tu suis le rythme, tu fais les pas, tu vois. Les petits pas, même si t'es pas dans le coup, t'en as rien à faire. Entre temps, t'es énervé, que c'est pas quoi. Tu fais les pas. Et après, tu rentres dans le coup. Moi, quand j'ai entendu ça, j'ai dit, mais tu t'imagines? Si c'est comme ça pour les forces de la Touma, parce que c'est de la Touma ça, d'accord? Que dans la Touma on te dit, pour être dans le goût, il faut danser. De la même façon. C'est la même façon que j'ai pour enjeu de faire la mitzvah. Tu dis, mais attends, je suis pas dans le goût, d'abord, attends, je veux, je me situe, je dis, commence à danser. Viens, d'abord on met les tines, vas-y, danse, commence à danser, et après tu vas vibrer. Après, mais c'est comme ça que ça marche. Pourquoi? C'est pas un mensonge, parce qu'au fond de toi, tu aimes déjà Dieu. On n'est pas en train de te piquer pour que tu sois endoctriné, au fond de toi, tu aimes déjà Kadosh Baruch Hu. C'est ce qui explique ici. Je tourne la page. Maintenant, il faut comprendre la chose suivante. Page 300. Vanachadroar. Hein, il y a des gens qui 300, ça leur parle beaucoup. Alors voilà. Ah non, c'est des références de Ferrari. Ils comprennent entre juste un regard, je comprends.
Oui, c'est aussi, mais c'est pas.
Dis maintenant, Vanachadroar. Faut savoir la chose suivante. que lorsque tu fais la chose suivante, lorsque tu essayes de vibrer pour une mitzvah, lorsque tu essayes de montrer que tu aimes Dieu, même si tu n'es pas dans le coup, et que tu arrives à faire la mitzvah, le plaisir qu'Akadosh Baruch Hu va avoir, quand il sait où tu étais hier soir, quand il sait où tu étais ce matin, quand il sait où tu étais cet après-midi, et qu'il voit que tu as fait un effort d'essayer de vibrer une mitzvah, le plaisir qu'il va avoir Akadosh Baruch Hu, écoutez, c'est un exemple très très fort, que Machal Simchat Amelech, c'est comme l'exemple de la joie d'un roi, Mibno, de son fils, Sheba Elav, qui est revenu vers lui, Betseto Mibeta Asurim, lorsqu'il est sorti de prison, Keniskar Le'el, comme on a cité plus tôt. Ça, c'est un exemple qu'on avait cité, ça fait quand même quelques temps, à la fin du chapitre 41. Je vous rappelle l'exemple. On avait donné un exemple d'un fils qui s'éloignait de son père. Son père, c'est le roi. Et le prince, le roi lui a dit, va un peu tourner dans le royaume pour voir comment ça fonctionne et pour voir à quoi tu devrais t'attendre le jour où je partirai, le jour où je devrais tenir les fonctions. Le fils, il est parti. Mais le fils, il a oublié qui il était. Il a oublié que c'était un prince, il a oublié, etc. Il s'est dévergondé complètement. Donc le fils, il s'est éloigné matériellement et spirituellement. C'est-à-dire, il s'est éloigné physiquement, d'abord géographiquement, du palais, mais il s'est éloigné aussi mentalement. Il a oublié qui il est. Maintenant, évidemment, ça fait une très grande peine au roi. Alors le roi a deux options. Qu'est-ce qu'il a comme option, le roi? Le roi, il a une option d'envoyer des équipes spéciales, d'envoyer le GIGN, ils vont le récupérer. Et vont le ramener manu militari dans le royaume. Mais le roi, il n'a pas envie de faire ça. Pourquoi? Parce que le roi, il sait que s'il va faire ça, le fils, il ne va pas vraiment revenir. Tu vas le forcer à revenir. Ça tu veux vraiment quand tu n'as pas le choix. D'accord? Mais le fils, il n'est pas vraiment revenu. Qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Kadosh Baruch Hu, parfois, ce qu'il fait, il te dit, je te laisse ton temps. T'es parti? Ok. Je te laisse partir, prends ton temps. Kadosh Baruch Hu, te laisse prendre ton temps. Mais le jour où le fils décide de revenir, le jour où le fils dit, ça y est, maintenant, je reviens chez papa. Je reviens chez mon père, je reviens chez le roi. À ce moment-là, la simcha que va avoir son père lorsque le fils est revenu, c'est une simcha extraordinaire, c'est une joie qui est indescriptible. C'est à la limite une joie encore plus forte que la joie de la naissance. Parce que quand un enfant est né, bon, il est bon. Mais quand l'enfant il est né, il a mal tourné, et après il revient, c'est une joie indescriptible. Dit le Zohar, il dit, c'est exactement la même joie qu'a Kadosh Baruch Hu lorsque t'as une neshama qui malheureusement s'est perdue, complètement. Comme un prince. On l'a envoyé sur terre, il est complètement oublié pourquoi il est là, d'où il est là, il s'est complètement perdu. Et après, ce prince qui était là, il a fait tchouva, il a recommencé à mettre les tefillin, il a recommencé à faire Shabbat, il a recommencé à faire les fêtes, il a recommencé à faire sa prière, il a recommencé à faire les mitzvot. La joie qu'éprouve à Kadosh Baruch Hu de cette personne-là, c'est une joie qui est indescriptible, c'est une joie qui est exactement comme la joie de ce roi qui retrouve son fils. Maintenant, écoutez bien. Ce fils, le prince qui est revenu, peut-être que le prince, quand il est revenu, il n'est pas vraiment revenu entièrement. Peut-être que quand il est revenu, bon, à un moment, il a compris qu'il était dans le flou. Il a dit, tu sais quoi, je vais revenir chez mon père et allez, je vais faire comme si je suis revenu et je vais plonger. Mais peut-être qu'il n'est pas encore vraiment revenu. Peut-être qu'encore dans sa tête, quand il est dans son lit, dans le palais, peut-être qu'il va encore penser à son ancienne vie qu'il a eue ces quelques derniers jours, ces quelques dernières semaines. Mais c'est pas grave. Le roi est content. Pourquoi le roi il est content? Parce que son fils est revenu au palais. Et dès que le fils est revenu au palais, on sait qu'il est au palais. Quand le fils est revenu au palais, alors on sait qu'il est entre deux mains. Même s'il a de temps en temps des petites pensées qui vont passer partir par là, mais on sait qu'il est revenu. Ça, c'est la joie qu'éprouve Akadosh Baruch Hu lorsqu'un juif revient. Lorsqu'un juif exprime de l'amour vers lui, et lorsqu'un juif revient vers Akadosh Baruch Hu. Ça, ce qu'explique le Morazaken. La simcha d'Akadosh Baruch Hu. Ou bien, Liotlo, je suis à la page 300, Liotlo, dira Betartonu Kaneskar Leel, j'accélère un peu, hein, parce que ça, Veine, Liot, dira Betartonu Kaneskar Leel, Veine, Gam, Liprina Nafshiviti, Kaneskar Leel, d'accord. Maintenant, dit l'Admor Azakaïn, il dit d'accord, bon, tout ce que tu me dis, c'est très très beau. Tu me dis des choses très fortes, tu me dis qu'en vérité, même si tu sens que tu simules, c'est pas grave, parce que d'abord, l'habitude forme une seconde nature. D'accord. Alors c'est vrai qu'on dit, on dit en français, chasse le naturel, revient en galop. Mais la chassidoute a dit le contraire. La chassidoute a dit le contraire. Non, mais c'est très important ce que je dis. Ça. Parce que vous savez, quand on connaît par exemple la théorie de Freud, Freud il te dit qu'un homme ne peut pas changer. Freud te dit, in fine, au final, un homme ne peut pas changer. Puis l'homme est un animal. Il ne peut pas changer.
Mais lui, il dit le contraire, par contre.
Exactement. La chassidoute et la Torah, en général, dit le contraire. La Rassoulou dit, c'est vrai qu'effectivement, l'homme naît comme un animal. Ça, c'est vrai. Mais la différence, d'ailleurs, c'est pour ça que Freud, vous savez, il faisait beaucoup avec l'analyse des rêves, parce que dans le rêve, c'est l'instinct animal qui ressort, etc. Bon, ça, on pourrait faire un autre cours dessus. Mais la Rassoulou, elle te dit, c'est vrai qu'effectivement, Alors la chassidoute est venue avant Freud. Elle te dit, c'est vrai qu'effectivement, l'homme est un animal, mais l'homme peut changer. L'homme, il a la possibilité de changer son caractère.
C'est pas le but de la création.
Bien sûr, c'est le but de la création. Bien sûr. Donc, bien sûr, le problème est réglé. Oui, mais ça veut dire que
t'as... Freud, il peut dire ce qu'il veut, mais s'il est dans l'erreur, le pauvre...
C'est un juif. Il est dans l'erreur, évidemment qu'il est dans l'erreur.
Il a pas dit ça, parce qu'après, il a dit qu'il s'agit de repris par parmi un autre.
Oui.
Il a dit que l'homme est un loup parmi les autres.
Non. L'homme est un loup pour l'homme.
Voilà, l'homme est un loup pour l'homme. Oui, mais on reste toujours sur l'instinct animal. La chassidoute ne dit pas le contraire, au passage. Hein. La chassidoute ne dit pas le contraire. C'est vrai que l'homme est un animal. Mais on peut le dompter. On continue. Donc, je disais, Edmond Razaken te dit la chose suivante. Il te dit, finalement, ok, je comprends, on a dit des choses très fortes. On a dit que, même si une personne il sent qu'il simule, deux choses. D'abord, on a dit, l'habitude devient une seconde nature. Donc, fais, et ça finira par rentrer. C'est comme dans le sport. Au début, tu n'arrives pas à courir, tu commences à courir. On dit, fais 100 mètres. Demain, tu feras 200. Après, demain, tu feras 300. Parce que l'habitude, dis, mais je suis pas sportif. Ça n'existe pas, ça. Ça n'existe pas, tu n'es pas sportif. C'est, l'habitude devient une nature. Même si t'es pas né sportif, si tu prends l'habitude d'être sportif, tu seras sportif. On est d'accord? Donc c'est la même chose. Même si tu dis, moi je suis pas religieux. Je suis pas religieux, j'ai pas envie d'abord, j'attends d'être plus clair avec Dieu. Tu dis, fais le religieux. Mets les mitzvot. Fais les tefillin. D'accord? Mets les tefillin, fais les mitzvot. Fais. Et à force de faire, tu prendras, ça deviendra une nature. Premièrement. Deuxièmement, ce qu'on vient d'expliquer, on a expliqué qu'il faut savoir que de toutes les façons, c'est jamais un mensonge. Parce que tu ne fais que exprimer ce qui est au fond de toi. C'est tout. Et que c'est un plaisir extraordinaire à Kadosh Baruch. D'accord. Maintenant, tu dis l'Admor HaZakai, il te dit, ne crois pas que c'est tellement impossible d'aimer Dieu. Ne crois pas quand tu lis le commentaire du Tania, chapitre 44, on te donne des expressions tellement fortes que aimer Dieu, c'est un instinct qui peut être aussi fort que manger, que boire, qu'avoir envie de dormir. L'Admor HaZakai, il te dit, ne crois pas que c'est quelque chose qui est tellement improbable. Ne crois pas. Je suis sûr que chacun de nous, je vais donner des exemples qui ne sont pas écrits, je suis sûr que chacun de nous a connu un père, une mère, un grand-père, une grand-mère, une arrière-grand-mère, que quand tu leur parlais, tu sentais qu'ils avaient la crainte de Dieu. Quand tu leur parlais, tu sentais qu'ils avaient l'amour de Dieu. Ils n'avaient même pas besoin de te le dire. C'est pas que ta grand-mère ou ton arrière-grand-mère avait besoin de te dire, tu sais mon fils, j'aime Dieu. Elle n'avait pas besoin de te le dire. Tu le sentais par son comportement, par sa façon d'agir, tu le sentais. Est-ce que pourtant c'était une sadéquette? Est-ce qu'elle était mieux que toi? Non. Pas du tout, ce que je veux dire.
Est-ce qu'elle aimait ou elle craignait?
Il y a les deux. Elle craignait, elle aimait. C'est pas quelque chose qui est tellement improbable. C'est ce que je voulais expliquer. C'est pas tellement improbable. C'est des choses qu'un être humain, qui, même s'il n'est pas sadique, un être humain classique en chair et en os, avec du travail, peut arriver à ça. C'est pas quelque chose qui est impossible d'aimer Dieu. C'est faisable, c'est possible. On a tous connu des gens qui sont pas des tzadikim, qui étaient à ce niveau-là. Que tu sens quand tu leur parles qu'ils aiment Dieu. Tu sais, quand quelqu'un est passionné, quand tu parles avec lui, tu sens tout de suite. Quelqu'un qui est passionné, tu parles avec lui, tu sens qu'il est dedans, il est dans le coup. Et ça, on a connu des gens comme ça. Des gens qui sentent qu'ils sont dedans.
On en a en face de nous. Hein?
Maintenant, ils boivent.
Hein? On en a en face de nous. Donc c'est sérieux. Non, mais ça veut dire, il faut vibrer ce qu'on fait.
Quand t'es petit, t'aimes pas la soupe.
Quoi?
Quand t'es petit. T'aimes pas les légumes, tu sais, les fameux épinards, les machins et tout.
Goûte d'abord, après on avance.
Un Tunisien qui n'aime pas les épinards, c'est terrible.
Tu aimes, hein. Logiquement.
Ok.
Et par rapport à nous.
Maintenant, on va tourner la page. On va tourner la page, on va passer à la page 302. 302. Donc, ici on a parlé, je vais résumer ce qu'on a expliqué deux cours avant. On a expliqué qu'il y a deux catégories d'amour. Il y a un amour basique que j'ai vers Dieu. Bon, j'aime Dieu comme j'aime quelque chose, comme j'aime un objet, comme j'aime un jus, comme j'aime, etc. Et après, il y a un amour, on a dit, nafshi vitira balayla, que tu aimes Dieu comme quelqu'un, d'accord? Comme quelqu'un qui est fou, comme quelqu'un qui, même dans la nuit, il pense à ça, il dort avec ça, il réveille avec ça. Le djihad de Mourazaken, ces deux niveaux-là, on les a en nous. C'est même pas pour les tzadikim, chacun de nous a ces deux niveaux d'amour. Ils sont en nous. En nous, de nature, on aime déjà Dieu. Un juif, il aime très très fort Dieu. Seulement le Yetzara, il s'arrange pour couvrir ça avec d'autres choses. Donc on va lire ensemble. Veine, page 302. Veine, bet, prinot, ava, anal. Ces deux niveaux d'amour qu'on vient d'expliquer. Av, she'en, Yerushala, nous m'avoté, nous, bien que on les a reçus en héritage de nos parents. Ukmoteva, ben, acheté, nous. Et que c'est un héritage qu'on a comme une nature dans notre âme. Vechen, aïra, kloula, bahem. De la même façon que la crainte qui est en nous. Chez il ira, mais il y paraît, chas v'shalom, qu'un juif au fond de lui, peu importe qui il est, peu importe dans quelle famille il est né, un juif au fond de lui, il aime Dieu, et il a peur de Dieu. Il a peur de se séparer de Dieu. Mimekor chayenu, de la source de sa vie, va vu nous amitié de notre vrai père. Baruchou, béni soit-il. Afal piken, quand même, enanikra, de shem trilu, chimutivim, elak, shem emocho, ou marchav tolevad, vetalumot libo. Dilad Mourazaken te dit comme ça. C'est très fort, je dois dire. Il dit, c'est pas parce qu'au fond, toi, tu es croyant qu'on peut t'appeler croyant. Ça veut dire qu'au fond de nous, chaque juif, il est croyant. Croyant, fils de croyant, pas de problème. Après, le Zohar, il dit comme ça. Le Zohar, il dit, il y a deux niveaux. T'as un niveau qu'on appelle la volonté du cœur. Re'uta deliba, en araméen. La volonté du cœur, ça veut dire qu'un juif, au fond de lui, dans sa volonté profonde, il est croyant. Ça, tout, chaque juif, peu importe son niveau, au fond de lui, il a une volonté du cœur dans laquelle il est croyant. Gilad Mourazaken, c'est pas sur ça qu'on va te juger. Quand tu vas arriver en haut après 120 ans, on va pas te poser la question, est-ce que dans ton cœur tu crois en Dieu? Parce qu'on connaît la réponse. On sait que dans ton cœur, dans la volonté profonde de ton cœur, tu crois en Dieu. Tu crois en Dieu, tu aimes Dieu, tu crains Dieu. C'est la question qu'on va te poser. La question qu'on va te poser, c'est est-ce que dans ta tête tu pensais à ça? Est-ce que dans ta tête tu savais que tu aimais Dieu? Est-ce que dans ta tête tu as réalisé que tu craignais Dieu? Est-ce que dans ton cœur, pas dans la volonté profonde de ton cœur, dans ton cœur, c'est dans ce que tu disais, est-ce que tu sentais que tu aimais Dieu, est-ce que tu sentais que tu craignais Dieu? Ça, c'est déjà plus difficile.
Oui, puisque c'est la tête qui donne les ordres au cœur. Comment le cœur, il peut aimer sans la tête?
Vous avez raison, c'est vrai. C'est une bonne question.
Non, mais c'est une image.
C'est une image. C'est une image.
Pas le cœur au sens physique du terme.
Ce que je veux dire par là, c'est la chose suivante. C'est qu'il y a des gens qui tout est intellectuel chez eux. Il y a des gens chez qui tout est sentimental. Mais au moins, ils sentent quelque chose. Mais après, il y a des gens qui c'est ni l'un ni l'autre. Si, c'est au fond d'eux. Je vous donne un exemple. Des fois, il y a des gens, par exemple, il y a des gens, est-ce qu'un fils, il aime son père? Est-ce qu'un père, il aime son fils? Pas sûr. Un père, il aime son fils. Un fils, il aime son père. Alors, des fois, le père, au fond de lui, au fond de lui, il sait qu'il aime son fils. Et parfois, il a oublié qu'il aime son fils. C'est-à-dire, ni il y pense, ni il le sent. Il a oublié. Non, c'est clair que si, au fond de lui, quand il y aura un problème, il lui dit, papa, j'ai été kidnappé, il va dire, tout d'un coup, il va se rappeler qu'il aime. Mais c'est Chazé Shalom. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne te juge pas sur ce que tu es au fond de toi. Parce que ce que tu es au fond de toi, c'est même pas toi, ça. T'as rien fait pour ça. C'est normal que t'es comme ça. Dieu ne va pas te poser la question, est-ce qu'au fond de toi, tu craignais Dieu? C'est pas une question, ça. La question que Dieu va te poser, c'est, est-ce que concrètement, dans les faits, est-ce que tu sentais que tu aimais Dieu?
Comment on peut sentir qu'on aime Dieu alors qu'il y a le Yetzer Hara qui nous fait tout pour nous tourner la tête?
Eh bien, c'est pour ça. Ve'afta et Hashem Elokecha. Réponse. Ve'afta et Hashem Elokecha. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Bechol levavecha. De tout ton cœur. C'est bechol de tout ton cœur. On peut faire le cœur à moitié? Ça veut dire, c'est ce qu'on te dit. C'est bechol de tout ton cœur. On sait que tu aimes Dieu. La question n'est pas est-ce que tu aimes Dieu ou pas. On sait que tu aimes Dieu. La question c'est est-ce que c'est bechol levavecha? Est-ce que c'est de tout ton cœur? Est-ce que tu es vraiment dedans ou est-ce que bon, tu dis bon?
Ça veut dire à l'origine, il y a déjà un chélek.
Oui, c'est sûr. D'amour. C'est sûr, ça. C'est sûr. Mais ça, on pourra pas se défendre avec ça le jour J.
Quand il dit de tout ton cœur, ça veut dire qu'il y a une partie déjà.
Mais il a donné la technique, tu simules. Tu simules. Complètement, tu simules. Ah oui? On n'aime pas faire ça, on n'aime pas simuler.
Non,
c'est comme si tu disais quelqu'un, je t'aime, alors que tu l'aimes pas. C'était dégéné de faire ça.
Même un chien, on s'habitue. Hein?
Non, mais est-ce que tu comprends? Est-ce qu'un homme, qu'est-ce que tu penses d'un homme qui aurait fait ça à une femme? Qui lui dit, je t'aime ma chérie, alors que, je sais pas, il a rien pour elle.
Hein?
Oui, ouais, bah bon, d'accord, non, je suis pas d'accord avec ça. Non, pas de problème.
On va avoir le chalon baït quelquefois.
Tout ce que vous dites pourra être retenu
contre vous.
Ah, je plaisante.
Mais tout ceci est déjà en
discrète. Ah, Chazé Shalom. Hein?
Un avocat et tout. Prendre un avocat.
Ne hein, pas chercher loin. Ok. Zilad Mourazaken, Aval, je suis au milieu de la page 303. Il te dit à quel moment c'est appelé. J'accélère un petit peu, hein, parce que je vais arriver au but. Et tu dis à quel moment ça s'appelle l'amour et la crainte? C'est quand au moins c'est dévoilé dans ton cœur ou dans ton esprit. Aval me kishehen beit galut libo, lorsqu'elles sont seulement beit galut libo, dans son cœur. D'accord, c'est-à-dire que c'est pas vraiment dévoilé. Là, nikraim reuta deliba bezoar. Là, dans le zoar, c'est appelé le désir du cœur. Mais ça, c'est rien ça. C'est normal dans ton cœur, tu aimes Dieu. C'est pas ça que tu
rajoutes. C'est pas suffisant en fait.
C'est pas suffisant. On met comme abayutzur debria ou les sham et maalot imem à Torah va mitzvot abba mechamatan mipne. Oui. Alors. Mipne sheyitziata me'elem vester alev el prinat gilui il edat dat utkiat amarsha bechoz agenut atzmo mikod liba yatir vetadir ben tzav baruchu ech uchayenu mamash vavinu amiti baruchu. Ok, j'explique ce qu'il dit ici. Mon Razaken ici veut t'expliquer la chose suivante. Là, je ne veux pas trop rentrer dedans, mais il t'explique les différences dans les Olamot. Il y a le Olam Abriya, le Olam Ayetira. Et il t'explique que selon le niveau de crainte et d'amour que tu as eu, plus la crainte et l'amour étaient dévoilés, et plus le niveau que tu vas atteindre avec ta mitzvah va te permettre de décoller plus haut. Et justement, tout à l'heure, on parlait avec M. Bergel, qui nous avait rappelé, il y a quelque chose qu'on avait étudié dans le chapitre 41, que l'amour et la crainte de Dieu sont comme des ailes, vous rappelez, et petite oiseau si tu n'as pas d'ailes.
Tu peux pas voler.
Tu peux pas voler. D'accord? Mais tu peux.
Marcher. Tu peux marcher. Ouais.
Bon. Alors, petite oiseau si tu n'as pas d'ailes, tu peux pas voler. On est d'accord? C'est-à-dire que si l'oiseau, si la mitzvah, elle n'a pas d'amour et de crainte, elle peut pas voler. Donc ça veut dire que l'amour et la crainte permet à la mitzvah de voler. Oui, mais voler à quelle hauteur?
Auprès du soleil.
Alors on te dit, voilà. On te dit, tout va dépendre de la qualité de l'amour et la crainte que tu auras. Si tu dis, ouais, au fond de moi, j'ai l'amour et la crainte de Dieu, mais que ça, tu sens rien du tout. On dit ça, c'est pas des ailes, ça. Ça, tu chipotes, là. Ça, c'est pas des ailes. Là, c'est normal que tu aimes et tu crains Dieu. Non, mais d'accord, non, mais ça veut dire, si tu sens rien du tout, juste, j'ai fait, au fond de moi, je sais que, ça rien, t'as rien fait, là. Ensuite, t'as quelqu'un qui commence à dire dans son cœur. Dans son cœur, il sent un petit peu qu'il aime. Il dit, ah, c'est pas mal, ça commence à décoller. Après, t'as celui que c'est pas seulement dans son cœur, c'est dans son esprit, ça occupe son esprit, et c'est tout le temps là, il pense tout le temps à ça. Celui-là, il monte encore plus haut. Plus, en d'autres termes, pour simplifier les choses, plus tu vis ton amour et ta crainte de Dieu, et plus ça permet à ta mitzvah de décoller. La mitzvah que tu as fait. Par exemple, je mets les tefilines. Je vais mettre les tefilines demain matin. D'accord? Quand je mets les tefilines, si je mets les tefilines sèchement, sans rien, oh, la mitzvah elle est là, elle reste là tranquille. J'ai fait la mitzvah, mais elle bouge pas. Elle décolle pas. Si je fais une mitzvah avec une petite cavernette du cœur, on se dit, bon, je sens un petit peu que, ouais, c'est pourquoi pas, je pense à Dieu. La mitzvah elle décolle. Mais elle décolle pas trop. Si j'ai une vraie kavana, ça m'occupe mon esprit, wow, tu t'imagines, je rentre soumettre mon cœur, mon esprit, pour Dieu, pac, le gars il est décollé, il est parti. Ça arrive des fois dans la vie, d'accord? Là on te dit ta mitzvah elle est tefiline, c'est pas elle est montée.
Voilà,
oui. Elle crève le plafond.
Mais si on le sentait hein, ça, tout le monde le serait.
Non mais, monsieur Benital, la vie est plus compliquée que ça, c'est-à-dire que, ça veut dire que c'est comme si je vous demande, est-ce que vous sentez le Shabbat? Ça dépend. Les Shabbats que je sens, les Shabbats oui, que je sens moins.
Non, non, mais non, ça dépend du degré. De ce sentiment.
Ça dépend de la préparation, voilà. Ça dépend
donc
beaucoup
vous,
de choses.
Vous parlez aussi de degrés.
Oui.
Mais si, je dis simplement, si chacun de nous
oui.
Sentait que ce degré, en le faisant d'une façon très. D'un amour très fort, et si on sentait quelque chose, mm-hmm. Tout le monde le ferait.
Ben oui, mais
ça nous encouragerait à le faire.
Mais on peut sentir.
Il n'y a pas de constance. C'est ce qui fait la difficulté, parce qu'un être humain, il est en permanence soumis
d'accord.
À des fluctuations. Et donc, il y a un jour, tu vas te réveiller, tu vas dire, non, là, je ne le sens pas. Et un autre jour, tu vas le parler avec un simple détail, on parle des tétonies, tu vas prendre les tefs et tu vas dire, ah ben là, il n'est pas assez, assez noir.
D'accord.
Je ne vais pas faire une bonne tef, il me faut une autre paire pour la faire comme
oui, mais dans ce cas-là, au lieu de monter au troisième étage, je monte au deuxième. Mais je monte, je le ressens.
Voilà.
Or, là, je sens
et
rien.
Et après, on peut monter de niveau, comme il a dit, pour atteindre le plafond, voir le traverser.
C'est ça, non, mais...
Voilà.
Et excuse-moi, Mandy, juste une fois, il avait dit, Mandy, que qu'on fait une mitzvah, qu'on a fait pendant des années, sans Kavana, sans rien, le jour où tu l'as fait Kavana, tout ce que tu as fait avant par le passé, elle monte aussi directement. Avec l'énergie...
Excusez-moi, j'ouvre encore une autre parenthèse.
Oui,
est-ce qu'on peut parler aussi de prédestination? Parce qu'entre le juif X et le juif Y, il y en a un qui va hériter peut-être d'une âme exceptionnelle.
Oui,
vraiment.
C'est vrai.
Mais qui n'aura même pas à forcer, ça va être un maillon cher. Et l'autre, il va hériter d'une âme, on va dire... de moindre qualité. Il y en a un qui va forcément bifurquer vers des choses positives et l'autre qui va bifurquer vers des choses négatives.
On ne peut pas dire forcément, ça n'existe pas.
Alors, en tout cas, il a des aptitudes. Un va avoir des aptitudes A.
C'est vrai.
C'est comme deux élèves en mathématiques. Il y en a un, ça va être un.
Ils seront jugés en conséquence.
Oui, mais c'est pas de sa faute.
Mais j'ai compris, mais ils seront pas jugés au résultat, ils seront jugés aux conséquences. Ils seront jugés selon ce qu'on t'a donné, selon ce qu'on en a fait. C'est-à-dire qu'on n'est pas jugé au résultat. Ok. Alors, je suis maintenant à la page. Page 305, Razak. Rak.
Le matin où il y a beaucoup de monde dans une synagogue.
C'est plus facile.
C'est plus facile parce qu'on est pris dans le
centre. Il a raison.
Chacun y t'aide à monter.
Il a raison. Ça, c'est écrit, ça. C'est écrit que c'est toujours bien de prier à la synagogue.
À plusieurs.
Parce que quand on prie à la synagogue, c'est comme, j'en ai souvent cet exemple, c'est comme, en fait, la tefila, si vous voulez, c'est comme un avion qui décolle. Maintenant, quand tu es chez toi à la maison, tu dis, je vais faire décoller un avion. Dis bon, vas-y, comme toi. Mais quand tu vas à l'aéroport,
là-bas,
tu vois les autres avions décoller, tu décolles toi aussi.
J'étais dans un match PSG Dijon, là.
Voilà.
Tu vas à l'ombre. Tu regardes le match à la télé. Ouais, bon, c'était un match.
Voilà.
Tu vas au stade.
Tu vas au stade, t'es obligé de participer.
Tu deviens fou comme les autres.
Exactement. Non, mais il a raison. Quand t'es avec ta bière devant quand il est avec sa bière devant sa télé. D'accord. Bon. Il est là, il regarde des gens qui crient, mais lui, il crie pas. Mais quand t'es dans le coup, tu vois des gens, c'est normal.
Il y a des mecs qui rentrent des gens de haut niveau dans
le verre sur la télé. Ouais.
T'es emporté.
Tu regardes à droite et à gauche, c'est que des bons.
À l'école, tu fréquentes des bons élèves, tu vas être bon. Si tu fréquentes des tocards, tu vas devenir un tocard.
Ok, maintenant, Rabota, je voudrais continuer. Je suis à la page 305, l'étude du CIR. Ok, là on va rentrer dans les mots. Pour résumer, on a deux façons. Donc là, on va répondre à la question de Michael. Michael, il pose la question, il dit, mais concrètement, comment on fait? Ça, c'est bien beau, mais comment on fait? Comment on fait pour aimer Dieu?
Comment ça marche?
Voilà, maintenant, je suis un bon juif. Bon, peut-être que si je m'étais pris à 3 ans, peut-être ça aurait été différent. Maintenant, j'ai l'âge que j'ai. J'ai 35, j'ai 40, j'ai 50, j'ai 60 ans. Je suis comme je suis. Comment je fais pour décoller? C'est la question. Comment je fais maintenant pour décoller tel que je suis? Une très bonne question. Il y a deux façons. Première façon, c'est de décoller avec le cœur. C'est-à-dire quoi décoller avec le cœur? Ça veut dire, tu fais une mitzvah, et t'essayes de sentir la mitzvah, t'essayes de vibrer, et tu fais, à force de faire, tu vas commencer à sentir. Mais ça va être que dans le cœur. Ça, c'est pas le niveau le plus élevé. Ça, c'est un niveau de base. C'est un niveau que même un enfant, il peut avoir, sentir avec le cœur. Dit l'Admor HaZaken, le vrai niveau, c'est quoi? Le niveau le plus élevé de l'amour, c'est quoi? C'est l'amour que tu as dans la tête. Ça, c'est un grand ridouche, parce que les gens, ils pensent, quand on demande aux gens avec quoi tu aimes, qu'est-ce que répondent les gens? J'aime avec le cœur. Dilad Morazakin, il te dit, l'amour que tu as dans le cœur, c'est une pulsion. C'est bien, c'est pas mal. Mais c'est pas ça le vrai amour. Ça, c'est quoi le vrai amour? Le vrai amour, c'est l'amour que tu travailles dans ta tête. C'est-à-dire, c'est l'amour que tu travailles, tu penses à quel point c'est important. Pourquoi? Parce qu'il va expliquer ici que le cerveau, pour l'amour, c'est comme de l'huile sur le feu. Si vous voulez, le cœur, c'est comme du feu. Et c'est les sentiments. Mais si tu as un feu dans lequel tu mets pas d'huile, qu'est-ce qui va se passer avec ce feu? Il va s'éteindre. C'est la même chose. C'est-à-dire quand quelqu'un dit par exemple j'aime quelque chose, tu dis j'adore ce truc-là. Si tu n'alimentes pas ça avec des pensées, qu'est-ce qui va se passer? Tu peux avoir un sentiment d'amour très fort, mais il va forcément, c'est sûr, au bout de quelques jours, quelques heures, quelques semaines, je sais pas, c'est sûr qu'il va s'estomper. Parce que c'est un feu qui n'a pas d'huile. Donc tout va brûler.
De carburant.
Il n'y a pas de carburant. Dis ici, l'Admor HaZaken, il te dit, c'est là qu'on te dit la chose suivante. On te dit, quand tu commences à aimer Dieu, d'abord, au début, c'est pas, je donne un exemple. Quelqu'un, par exemple, il est là, il a senti à Kippour que ça a pris. Ah, j'ai passé un bon Kippour. J'ai passé un bon Shabbat. J'ai passé un beau cours. J'ai fait une belle prière. C'est très bien. C'est-à-dire que t'as fait une prière dans laquelle t'as senti que ton cœur, il a pris. Le problème, c'est que tu sais très bien que 2 heures plus tard, il ne restera plus rien. 2 jours plus tard, après Kippour, il ne restera plus rien. Comment ça se fait? Parce que tout ça, c'est que du cœur. Et tout ce qui est dans le cœur, il y a besoin d'être alimenté constamment. Comment tu alimentes ça constamment? Avec tes pensées. C'est lorsque, avec tes pensées, chaque fois tu vas penser, mais tu t'imagines à quel point c'est beau, à quel point c'est important, à quel point c'est magnifique, à quel point c'est extraordinaire, etc. Et tu te fais rêver. Et plus tu rêves, et plus tu fais décoller. Vous savez d'où on apprend ça? C'est exactement comme dans la colère. Là, je vais prendre l'autre côté. Imaginez quelqu'un, il vous a fait une crasse. Il vous a énervé. D'accord? Il vous a énervé. Donc vous décollez. Tac, tu décolles. J'ai pas dit que tu décolles, pas une droite, mais dans ton cœur, tu t'es enflammé. Ok. Bon, tu t'es enflammé, mais tu peux te calmer. tu peux te calmer aussi vite que tu t'es enflammé. Tu t'enflammes, et après, on baisse. Vous savez, c'est quoi l'huile sur le feu? Comment on augmente la colère? C'est les pensées. Après, tu t'imagines, mais en plus, il m'a pas fait que ça. En plus, il avait vu qu'il a fait ça, et en plus, il a fait. Et en plus, c'est pas la première fois. En plus, c'est la dernière fois aussi. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire, en vérité, qui c'est qui te chauffe? C'est pas plus ton cœur qui te chauffe. C'est ta tête qui est en train de te chauffer. C'est ce que te dit là de Morazaken. Morazaken te dit, les gens, ils pensent que l'amour et la crainte, c'est dans le cœur. C'est faux. Le cœur, c'est là d'où démarre l'amour et la crainte. Et c'est là où ça s'exprime. Mais en vérité, le vrai moteur de l'amour et la crainte, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, le vrai moteur de l'amour et de la crainte, ça se passe dans la tête. Et ça, on le voit, je vous dis, pour les sentiments. Que quand, par exemple, t'es énervé avec quelqu'un, c'est quoi, qu'est-ce qui te pousse à être plus énervé? C'est les mots. Quand tu vas te mettre des pensées et des mots. Et là, tu vas voir que tu mets le feu. Qu'est-ce qui va te calmer quand t'es énervé? Soit tu penses à autre chose, bon. Ou soit tu vas te trouver des mots. Des mots dans lesquels tu vas dire, oui, c'est vrai qu'il y a ça, mais finalement, c'est pas si grave que ça, parce que ça et ça. Donc encore une fois, c'est des mots qui ont maîtrisé la pulsion. Donc ça, c'est valable pour une crise de colère. C'est valable aussi pour de l'amour. Quand tu dis j'aime quelque chose, bon, tu l'aimes, c'est une pulsion. Mais quand après tu penses à ça, et tu dis, mais tu t'imagines, j'ai pas vu cette option, pas qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Plus tu réfléchis, et plus tu décolles. Et ça, c'est à l'infini. C'est pour ça que quand tu penses à un, quand tu demandes à un télé, tu dis à quoi vous pensez maintenant? Tu répondras, je pense à Dieu. Et quand tu penses à Dieu toute la journée, tu peux pas ne pas l'aimer. Tu penses. Imaginez quelqu'un qui n'arrête pas de penser à sa voiture. Il n'arrête pas de penser à son iPhone. Il n'arrête pas de penser à, je sais pas moi, un gadget qu'il a acheté. Au début, il a acheté, bon, il y a un engouement, mais après, ça s'en va. Mais s'il arrête pas de penser, il va trouver des nouvelles options, c'est sûr. Dilad Morazaken, c'est ça le niveau qu'on cherche. On cherche pas forcément le niveau dans lequel tu sens que ton cœur va décoller. C'est pas mal, ça. On cherche le niveau dans lequel tu sens que tu penses à ça. Dans lequel tu sens que ça t'attrape ton esprit. C'est vrai que c'est un niveau qui est pas facile.
Est-ce qu'on bascule pas dans l'obsession?
Pas du tout. C'est pas du tout l'obsession. Non?
Non, parce que d'un côté, il y a les simulations. Là, j'ai l'impression qu'on va vraiment à l'extrême droite. C'est limite obsessionnel, hein, votre histoire.
C'est pas obsessionnel.
De toute façon, on a besoin. Bah, si.
Non, ça veut dire, c'est pas obsessionnel, c'est comprendre à quel point Dieu est important dans ma vie.
Récurrent, c'est tout. Non, mais d'accord. Mais de là, à penser du matin jusqu'au soir,
oui,
en me disant, j'aime Dieu, je machin, au bout d'un moment, il y a des gens qui deviennent obsessionnels.
Oui,
après, ça devient une obsession.
Tu t'es avec.
Parler d'iPhone, de gadget.
Je parle de Dieu maintenant.
Non, mais j'entends bien.
Oui.
Ça doit être obsessionnel. Mais il y a des gens qui ont perdu la raison avec cette notion de
c'est
de,
clair. Mais tout doit être. Bon,
ils sont partis en vrille.
Oui, mais ça, c'est l'extrême limite.
Bah, excusez-moi, hein. J'accepte pas cet argument. Non, mais je vais vous dire quelque chose. En général, les gens qui sont partis en vrille, qui mettent sur le dos de la religion, c'est des gens qui sont déjà un peu.
Fragiles.
Bien sûr. D'accord. Bien sûr. C'est des gens qui sont un peu fragiles. Qu'est-ce que c'est? C'est tombé dans ça, ça aurait pu tomber dans autre chose. C'est comme il y en a une fois, il m'a sorti, il m'a dit, pas d'ici. Il m'a dit, je suis devenu alcoolique à cause des Fabringen. J'ai dit, baba, t'es alcoolique tout seul.
C'est pas oui. Ah oui, t'as de l'alcool là-bas.
Ils m'ont aidé à boire.
Mais... Il m'a dit, je fais alcoolique à cause des Fabringen.
Non, mais moi, je peux vous dire.
Je lui dis, moi, je fais le Fabringen chaque Shabbat, je suis pas alcoolique. Alors,
non, mais
pas d'histoire.
Mis à part, je vais vous parler de Fabringen. J'ai fait l'armée un an en Allemagne.
Oui.
Il y a des mecs qui, moi je bois pas du tout, j'ai horreur de ça. Vous allez en Allemagne, il y a que des mecs qui boivent autour de vous de la bière, parce que là-bas c'est le pays de la bière.
Oui, c'est le pays de la bière.
Le mec il tombe dans la bière, hein.
Oui.
Au bout d'un moment ils aiment ça, hein. Et ils sont sortis de l'armée, ils ont continué.
Oui, mais c'est Berzel.
Juste une remarque par rapport à ce qu'a dit, comment faire concrètement?
Alors, on va développer, attendez. Non, j'ai pas fini de répondre à la question.
Non, mais
deux secondes.
Non, parce que.
J'entends ce que vous voulez, attendez.
Je vous taquine, hein.
Non, bien sûr.
Par rapport à l'amour, à la crainte, tu nous avais fait un cours sur la grandeur d'un
bonne occasion.
Oui.
Oui, disons, il suffit de voir le matin, tu te lèves, tu te dis, bah, regarde, il est beau.
C'est la prise de conscience.
Prise de conscience. Chapitre 41,
et,
ça va. Ouais.
Je sais plus quel c'était. Et donc, pour voir les côtés positifs des miracles, des créations permanentes d'Hachem, ça, c'est déjà un moyen pour dire, voilà, bah, je peux aimer ça, quoi. Et qui est derrière ça, bah, c'est Hachem. Et pour les catastrophes, etc., c'est pareil. Quand tu as des déluges, quand tu as des problèmes en terre, ça vient pas de, comme ça, de, hop, il y a quelqu'un qui a provoqué ça.
Il faut réfléchir.
Et donc, cette réflexion-là, tu l'as en permanence.
En d'autres termes, Michael, pour répondre à ta question, ce qu'on veut expliquer ici. D'accord. Non, mais la question de Michael, c'est le point du chapitre 44. Tout le chapitre 44, il parle de ça.
Il va te donner la réponse, tu vas voir.
Non mais la question de Michael, c'est la base du chapitre 44. Il a raison. Ça veut dire, en d'autres termes, la question de Michael, c'est comment ma vie va changer maintenant. Tout à l'heure, je vais sortir d'ici du Beit Rabad. Non, mais il a raison. Qu'est-ce qui va changer? Comment je vais dire, je vais aimer? C'est une bonne question. Réponse de l'Admorazakane, tu dis, il y a deux options. Première option, si tu veux faire travailler ton cœur. C'est-à-dire, tu simules pour que ton cœur décolle. Mais c'est pas le top, ça. Ça, c'est pour démarrer. Deuxième option, c'est avec ta tête. On va donner tout de suite des exemples. Qu'est-ce que ça veut dire quand on dit qu'on fait travailler, qu'on fait travailler sa tête? Vous savez, on vit dans un monde dans lequel les gens n'aiment pas réfléchir. On n'aime pas être actif. On aime être passif. Il y a des gens qui adorent rester devant leur télévision pendant des heures et des heures et des heures. Ils savent même pas, tu dis, qu'est-ce qu'il y aura dans 5 minutes, il en a rien à faire. Il dit, moi je suis assis et je regarde et je suis passif.
Je regarde la télé.
Il y a des gens qui sont là, ils vont ouvrir leur page Facebook, finalement, d'accord? Et ils vont voir dans leur page Facebook, qu'est-ce qui s'est passé? Tu dis, mais quand t'as allumé ton Facebook, tu comptais voir quoi? Il dit, je sais pas, j'en sais rien, moi je comptais voir ce qu'il y a.
Il y en a, ils font les deux en même temps.
D'accord? Ça veut dire quoi? C'est l'addiction. Ça veut dire quoi?
J'avoue.
Ça veut dire qu'aujourd'hui on est dans un monde. On est dans un monde, et c'est sérieux ce que je vous dis, c'est même un publiciste qui me l'a dit. On est dans un monde aujourd'hui dans lequel on pousse les gens à réfléchir le moins possible. On veut pas que les gens réfléchissent. D'accord? On veut pas que les gens réfléchissent. On veut que les gens réfléchissent qu'avec leur cœur, qu'avec leur pulsion. On veut pas que les gens réfléchissent. L'Admor HaZaken, Chassidut Chabad, Chabad qui veut dire Chochma Bina Da'at, fait la guerre à ça. Il te dit, ça n'existe pas quelqu'un qui réfléchit pas. Ça n'existe pas quelqu'un qui est passif. On peut pas avancer comme ça dans la vie. Tu peux pas dire, je me lance, je viens à la synagogue, on verra bien comment ça décollera, peut-être ça va décoller, peut-être oui, peut-être non, peut-être ça me parle, peut-être ça me parle pas. Ça n'existe pas, ça. Ça marche pas comme ça. C'est pas, tu dis, je me lance, on verra bien ce que ça va donner. Non, on n'est pas en train de faire du poker ici. C'est du sérieux. Ici, on est en train de faire des choses sérieuses, on te dit, tout démarre par la réflexion. Il faut réfléchir à ça. C'est-à-dire, il faut faire un effort de penser, qui est Kadosh Baruch Hu dans ma vie? Pourquoi il est important? Qu'est-ce qui m'a amené dans ma vie? Pourquoi je le remercie? Tu réfléchis. Et regardez les mots qu'il dit, c'est des mots très forts. Rak seulement, et là on va répondre à la question. Vous allez voir les mots qu'il va utiliser. Sha'afal piken, quand même, tsarich li trohar besichlo. Il faut faire l'effort avec son intellect. C'est un effort. Le assi ou le agia gam le frinat ahavat olam aniskeret le mala. D'atteindre au degré d'ahavat olam, l'amour d'Akadosh Baruch Hu avec l'intellect. Abba'a me'advuna veda'ad vigdulat Hashem, qui provient de la méditation et de la connaissance de la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Kedel le agdil, pour agrandir, je suis en bas de la page 305, suivez dans les mots avec moi. Kedel le agdil, en bas de la page 305, pour agrandir avec cette réflexion, medurat, le bûcher, esh'av, du feu, de l'amour, veshal evet, aza. Et des charbons ardents.
Ah, celui-là, il est décollé, hein.
Velahav ola shamaima. Une flamme intense. Une flamme qui s'élève au ciel. Ad shemaim, Rabim, pour reprendre un texte de Shirachirim, au point que de nombreux eaux, lo yuchlu les chabot, ils ne pourront pas éteindre l'amour, ou niharot lo yishtefua, et des rivières ne pourront pas l'emporter. Vous savez où on voit ça, ça? Vous savez où on voit ce texte? Shirachirim. Dans Shirachirim, le roi Salomon, là-bas, Shlomo HaMelech, il parle de la relation qu'il y a entre un homme et une femme, un fiancé et une fiancée. Ils sont là en train de se chercher cache-cache, d'accord? Et à un moment, il dit la chose suivante, il dit qu'ils sont arrivés à un tel amour entre le fiancé et la fiancée qui vont se marier, que même de nombreuses eaux ne pourront pas éteindre cet amour, et même des rivières ne pourront pas l'emporter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand c'est un amour qui est ancré en toi, même quand tu as de nombreuses eaux, c'est quoi les eaux tumultueuses? Les eaux tumultueuses, c'est quand tu as aussi de la parnassa. L'eau, c'est le symbole de la parnassa. Quand t'as la parnassa qui arrive, et les problèmes, et les galères, quand t'as un amour qui est très très fort, cet amour ne bouge pas. C'est la même façon. Quand tu crées un amour avec Akadosh Baruch Hu, il faut faire un effort pour développer l'amour le plus fort que tu puisses avoir avec Akadosh Baruch Hu. Et ça démarque avec la réflexion. Chacun doit faire un effort pour réfléchir, pour augmenter la flamme de l'amour vers Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est le top. Quand tu as un amour qui réfléchit, si tu t'es venu à un cours de Torah et t'as senti que t'as aimé Dieu, c'est bien. Bon, après, Sarah, il va prendre un autre amour. Et il t'a pris. Le plus fort, c'est l'effort que tu vas faire ce soir quand tu vas sortir du cours. Tu vas rentrer chez toi à la maison. Et tu vas dire, même 30 secondes, tu vas réfléchir. Tu vas dire, pourquoi je devrais aimer Dieu? Pourquoi je devrais aimer Dieu? Qu'est-ce que je lui dois? Pourquoi je devrais aimer Dieu maintenant? Pourquoi je devrais aimer Dieu? Quel rapport moi à Dieu? Pourquoi je devrais craindre Dieu? Ce sentiment que tu vas avoir avec ta tête, un sentiment réfléchi, ça vaut plus que tout. Parce que dès que ça vient d'une réflexion, c'est un sentiment qui est très très fort, qui est très très fort et qui ne bouge pas.
Mais il y a le contraire aussi qui peut
venir
de la réflexion.
Vendredi soir.
Oui.
On n'est pas loin de décoller.
avec les chants du vendredi soir.
Ah oui, sérieux, hein. Bah oui, ça fait décoller.
Tu rentres en France.
On est dans Shabbat.
David, là, j'ai vu là.
Hein?
On est dans Shabbat. C'est pas facile.
Shabbat.
Shabbat, vendredi soir.
Shabbat, c'est facile à décoller.
T'oublies tout. Ah oui, non, mais hein? C'est un moment propice pour décoller.
T'es dans un autre monde.
Oui.
T'es dans un autre monde
complètement. T'as tout lâché.
T'es prêt à.
Dans Bereshi, au début, il y avait tous les autres qui étaient unis.
Oui.
Et après,
oui.
Et on a pris le ciel en qui a fait ça. Et après, il a dit c'est pas Marie-Rouana.
Oui. D'accord.
Chamaïn.
Et toi, dans le même,
il y a les deux repas.
On est en feu et le miracle.
Et le miracle, oui, le deux.
C'est un état de transe.
Razak.
Pourquoi ? Dans les deux versions qu'on a parlé là, on a d'un côté le Hesh
et de l'autre côté le Maïm. Razak.
C'est lui qui permet de monter.
Très beau pirouche, Razak.
C'est pour nous tout ça là ou alors
On y va, on y va. Alors, je voulais vous rajouter quelques exemples pour expliquer qu'est-ce que ça veut dire ici quand il parle d'amour. Il y a un chassid, il y a un chassid. Non, pourquoi ça? Maintenant, prends ça maintenant.
Non, mais je le rassure. Il croit que.
Il a raison de poser les questions, il faut comprendre.
Non, mais, c'est dur, quoi. Voilà, je te dis. Tu as
raison de poser la question.
De l'effort.
Je vais te dire la chose suivante.
Méditation, immersion.
Michael, je vais donner un preview du chapitre 45. Qu'on va commencer la semaine prochaine. Dans le chapitre 45, Edmond Razakain, il va dire qu'à un moment, il faut demander à Dieu pitié pour son âme.
Ah oui, ça.
T'as raison, ça veut dire, il va dire à un moment un juif qui sent, il sent que bon, ça marche pas. Et il dira, là, il faut demander pitié. Mais avant de demander pitié, il faut essayer d'abord. Donc, j'entends ce que tu dis. Mais avant de sortir la bombe atomique, il faut d'abord essayer. Je voudrais vous raconter, Joseph, quelques exemples pour illustrer qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que l'Edmond Razakain attend de nous ici. Le chassid, le Rav Nachum Goldschmidt, était un des grands chassidim qui donnait des cours sur le Tanya, et il avait l'habitude d'expliquer les idées du Tanya avec des exemples. Et une fois, il a fait un cours sur ce chapitre 44, et il a donné l'exemple suivant. Il a donné un exemple de deux personnes, un riche et un pauvre. Ces deux personnes, on leur sert un très bon plat. D'accord ? Maintenant, le premier, c'est un riche qui, tous les jours, il mange des plats hauts de gastronomie. Son ami, c'est un pauvre qui a jamais vu de sa vie des plats de haute gastronomie comme ça. Maintenant, le pauvre, il a faim. Le riche aussi, il a faim. Mais le pauvre, il a plus faim. Il a encore plus faim. D'accord? Donc, on amène les deux, le riche et le pauvre. Donnez-moi un nom d'un restaurant comme ça, très 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 haut de gastronomie. Hein? Zaps, très bien.
Le cadre.
D'accord? Donc, on va les amener, tu vas amener un restaurant 5 étoiles. Les deux, attends, mais écoutez la question. D'accord?
C'est 3 étoiles.
Maintenant, les deux, ils ont très faim. Ok? Et alors, le pauvre, il a tellement faim, dès qu'il voit, et on lui sort des entrecôtes, ce que tu veux, etc. Il saute sur la nourriture, et il mange avec un désir. Tu peux lui servir la marmite entière, il va la manger. Le riche, il est là, il mange calmement, peut-être même.
Il déguste.
Froidement. D'accord? Il coupe tranquillement l'entrecôte. Il mange pas comme ça. Il mange pas comme un chien. Il prend son temps, il prend le couteau, il coupe morceau par morceau. Il apprend délicatement. D'accord? Coupe avec le couteau. Après, il prend la fourchette, il attrape le petit morceau par morceau. Il trempe un peu dans la moutarde, un peu dans le truc, un peu dans les sauces, etc. Et on voit pas, attendez, écoutez bien. On voit pas chez le riche la passion qu'il y a chez le pauvre. Le pauvre, là. Alors, ça, on a vu chez le pauvre. Le riche, on n'a pas. Alors, pose la question, le Rassid Rav Nachum, il pose la question suivante. Il dit d'après vous, le riche et le pauvre, les deux, ils ont mangé le même plat, au même moment. D'accord? Le pauvre, il a mangé avec beaucoup d'appétit. Et le riche, il a mangé apparemment plus froidement. D'après vous, lequel était plus lié au repas? Lequel était plus attaché au repas? Alors nous, on serait tenté de répondre, le pauvre. Tu regardes le pauvre, comment il avait les yeux qui brillaient, comment il était dedans. D'accord? Alors que le riche, il était là, il mangeait calmement, comme ça, d'accord, avec la serviette, il mangeait. D'accord? Mais en vérité, c'est faux. Pourquoi? Parce que celui qui a le plus vibré le repas, c'est pas le pauvre. Le pauvre, il avait faim. Donc bon, tu lui as servi une bonne entrecôte, il a mangé, mais tu aurais pu lui servir autre chose, il a faim, il a mangé, c'est tout. Donc tes yeux n'ont pas vraiment pétillé, parce qu'il a apprécié la qualité des 5 étoiles. Il dit, ah, ça c'est un 5 étoiles, ça. D'accord? Non! Le pauvre, il avait faim, il a mangé. Par contre, le riche, il a dégusté. D'accord. Et vous savez, c'est quoi la preuve ? La preuve, c'est que, imaginez maintenant qu'on amène le plat aux riches et aux pauvres. On leur présente le plat et on leur enlève. Qu'est-ce qui va se passer ? Les deux, ils vont se battre. Ils vont dire, attends, ils vont pas se battre pour la même raison. Le pauvre, il va se battre. Pourquoi il va se battre ?
Parce qu'il a faim.
Maintenant, il va se battre parce qu'il a faim, mais à un moment, quand il va comprendre qu'on lui enlève, il dira, ah bon, c'est pas grave, je mangerai un paquet de crackers. Tant pis, je prends ce qu'il y a. Mais le riche, beaucoup plus compliqué. Le riche, quand tu lui dis, on t'a enlevé ton plat, et son caprice de riche, donc, et on va te donner à la place, on va te donner un autre plat, on va pas te donner ce que tu voulais, il peut t'en vouloir toute ta vie. Le riche, il va oublier. Il dit, bon, j'avais faim, il m'a pas donné, il m'a donné autre chose, tant pis.
Le pauvre, d'accord,
il va oublier. Le riche, il n'oubliera pas. Parce que le riche, il est venu ici pour déguster et il savait exactement ce qu'il voulait déguster. Pourquoi ? Parce qu'en vérité, celui qui est attaché le plus à ce plat de haute gastronomie entre le riche et le pauvre, c'est qui ? Même si toi, extérieurement, tu vois le riche qui mange froidement et le pauvre qui mange avec beaucoup d'ardeur, toi, tu crois que c'est le pauvre qui vit le plus. En vérité, c'est faux. Alors, il dit la même chose. Écoutez bien ce qu'il va expliquer. Il dit la même chose, le Rav Goshmi, il dit comme ça. Il dit, des fois... Quand tu vois, non, mais attends, vous savez pas où je vais arriver avec l'exemple.
Non, mais pour moi, il est biaisé, l'exemple. Il est pas bon.
Pourquoi il est biaisé ?
Parce que là, vous parlez de quelqu'un qui a très faim, qui est affamé, et l'autre qui vient
pour manger. Mais peu importe, attendez.
Non, parce que si moi, je prends le mec riche.
Non, mais moi, attendez.
Non, je vous dis, non. Si je prends le monsieur riche, je l'enferme dans une pièce, je le laisse
sûrement. Bien sûr.
Vous allez voir s'il va prendre le temps de.
Mais c'est pas ça la question. Non, mais... La question est d'un, tu vois qu'il mange calmement, d'accord ? Et l'autre, tu vois qu'il mange avec les yeux qui pétillent. Mais on te dit, ne te fie pas à ce que tu regardes. Toi, tu crois que le pauvre, il vivre plus. En vérité, c'est faux. Le pauvre, il a faim. Alors, écoutez, je vais en arriver. Il a expliqué le Rav Nachum Goldschmidt dans sa cours sur le Tanya. Il dit, c'est la même façon. Il dit, des fois, quand tu vois un tzaddik, tu vois calme. Il est calme.
Il est serein.
En fait. Serein. Il est calme. Il est là comme le riche qui est là avec sa fourchette qui coupe, il coupe pas coupe, etc. Il mange une petite fourchette, il prend, etc. Et des fois, tu vois un bal, tu vois, bah, tout feu, tout flamme. Et toi, tu t'imagines, extérieurement, tu dis, ah, bal, tu vois, lui, il aime Dieu. C'est dit, bon, il est bien, mais bon, il aime pas spécialement Dieu. Il te répond, il te dit pas du tout, il te dit c'est le contraire. Il te dit, pourquoi le bal, tu vois, quand il démarre, il a beaucoup de feu, beaucoup de flamme? Parce que c'est nouveau pour lui. Il a très très faim. Donc, comme il a très très faim, c'est comme le pauvre qui est là, qui se jette sur le plat, sans vraiment comprendre ce qu'il attrape. Il prend tout ce qu'il y a, il prend. Mais à quel moment tu vois vraiment le vrai attachement qu'il y a ? C'est après que c'est le tzaddik. Le tzaddik, lui là, c'est pas un attachement qu'il a juste j'ai faim, je mange. Je sais exactement ce que je mange, pourquoi je le mange. Je sais exactement, je peux te donner une note. Je vais donner une note sur l'entrecôte. Comment elle était l'entrecôte ? Le tzaddik, c'est pas l'entrecôte qui mange. C'est les mitzvot qui te mangent, le tzaddik. Le tzaddik, il te dit, je sais exactement ce que je fais, où je fais, comment je l'ai fait. Le Admor HaZaken ici, il veut t'expliquer ça pour te dire, il n'y a pas besoin d'être tzaddik pour être comme ça. Vibrer une mitzvah, t'as pas besoin d'être un tzaddik pour vibrer une mitzvah. T'as trois niveaux pour une mitzvah. T'as celui qui fait la mitzvah, il sent rien. Au fond de lui, il sent certainement, mais il sent rien. T'as celui qui fait la mitzvah, il sent avec son cœur quelque chose. Mais t'as celui qui a réfléchi à sa mitzvah, il a calculé sa mitzvah. C'est-à-dire qu'il a préparé sa mitzvah, il est parti acheter ça. Sa mitzvah était calculée. Et là, quand il prend sa mitzvah, il va prendre son loulah, il va prendre cette filine, il va prendre sa mitzvah, etc., il va la faire, il y aura une sorte de sérénité qui va s'installer. Mais cette sérénité ne veut pas dire qu'il n'a pas vibré sa mitzvah. Au contraire, elle veut dire qu'il est arrivé à un niveau dans lequel il a trouvé ce qu'il cherchait. Et ça, c'est la différence qu'il y a entre une personne qui a soif. Quand une personne a soif, tu vois, il a soifé. Après, une fois qu'il a bu, il est bien, il a une sérénité, il a un calme profond. C'est ce que je dis là de Morazaken. Le Morazaken te dit, ça, tu peux l'obtenir qu'avec la tête. Ça, tu peux l'obtenir qu'avec la réflexion. Chez les malachim aussi, chez les anges, on retrouve la même catégorie. On dit comme ça. On dit, Ve'ofani v'chayot ha'kodesh b'ra'ash gadol mitnaseim. Il y a des anges qui s'appellent les ofanim. Ces anges s'appellent les ofanim. B'ra'ash gadol, avec un grand bruit. Mitnaseim, ils s'élèvent, etc. Et ils crient, ils hurlent, ba'ur kavod, ils hurlent. D'accord? Et d'un autre côté, on dit, et d'autres malachim. C'est qui les autres malachim? Les autres malachim, d'accord, c'est le umatam, shabichim, donc il y a d'autres malachim, c'est les, donc il y a les srafim, les chayot et les ufanim, d'accord. Les autres malachim, eux, ce sont des malachim qui sont calmes, comme l'eau. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ont rien. Au contraire, il y a des malachim que tellement ils sont dans la recherche, qui brûlent constamment devant Hachem et que Dieu, kaviachol, les régénère à chaque instant. Mais la Torah Zakatou, c'est pas le but. C'est-à-dire que des fois, tu vois un Baal Tchouva qui est tout feu, tout feu, tout feu, tout flamme, et tu dis, ah, c'est magnifique, ce serait bien, c'est comme toute sa vie. Non. On peut pas rester comme ça toute sa vie. Ça, quand tu es Baal Tchouva, tu vas être tout feu, tout flamme, mais c'est qu'au début, parce que c'est nouveau. T'es comme le pauvre. T'es comme le pauvre qui rentre au grand restaurant de haute gastronomie et qui a très faim et qui mange. Tu le vois avec les yeux qui pétillent. Mais ce pauvre, quand il va venir tous les jours au restaurant, ses yeux vont arrêter de pétiller. Et donc, on va dire maintenant, c'est là qu'on va te voir. On va te voir maintenant, est-ce que tu sais vraiment déguster ce que tu es en train de manger? C'est là qu'on va te voir vraiment, est-ce que tu prends? C'est la même chose. Quand t'as un Baal Tchouva qui est là, qui démarque et tout feu, tout flamme, c'est très bien que t'es tout feu, tout flamme. C'est pas maintenant qu'on va te tester. On va tester dans un mois, dans deux mois, dans trois ans, dans un an, dans deux ans, trois ans. Est-ce que tu seras toujours pétillant vers Akadosh? Est-ce que tu auras toujours imprégné et intégré que tu es en train de t'approcher d'Akadosh Baruch Hu? Et dit l'Admor HaZaken un mot très très fort, il dit, Vekizekola Adam. Ça, c'est le but de l'homme. Ce que je viens de vous dire, ça veut dire chercher Dieu et à un moment sentir Dieu comme quelque chose que j'ai trouvé comme un riche, ça veut dire finalement que j'ai trouvé la chose et que j'arrive à apprécier, c'est des mots très forts, kola Adam, car c'est là tout l'objectif de la création de l'homme. C'est-à-dire qu'au-delà du fait que Dieu attend que je fasse des mitzvot, certainement, etc., Dieu attend de moi que j'arrive à m'identifier dans ce que je fais, que j'arrive à ressentir ce que je fais, que j'arrive à, que c'est pas seulement une soif vers un cadavre, que j'arrive à trouver une sérénité profonde dans ce que je fais. Vous savez, ne croyez pas que vous l'avez pas, probablement que vous l'avez déjà en partie. Il arrive parfois qu'on invite des gens à la table de Shabbat. Vous invitez quelqu'un à la table de Shabbat. Maintenant, pour vous, votre table de Shabbat n'a rien de particulier. Une table de Shabbat classique, comme beaucoup de tables de Shabbat. T'invites un copain qui fait pas Shabbat. Il dit, mais tu t'imagines pas, bah, ça m'est arrivé plusieurs fois, il dit, mais tu t'imagines pas la sérénité, comment c'est beau le Shabbat. Et toi, tu comprends pas ce qu'il te raconte. Parce que tu dis, mais de quoi il parle, le bonhomme? Et des fois, il te dit ça, alors pour toi, c'était même pas le meilleur Shabbat, tu vois. Bon, il y a des trucs qui tournaient pas très rond, tu vois. Mais bon, t'as rien dit.
Pour lui.
Pas du tout. Non. Parce qu'en vérité, nous, tellement on vit dans le Shabbat, qu'on se rend même plus compte à quel point c'est extraordinaire. C'est extraordinaire, cette sérénité qu'on a. On a la sérénité du riche. Lui, quand il vient, il a l'engouement du pauvre. Ah, il est pauvre, il veut manger. Mais toi, quand tu fais ton Shabbat plusieurs fois, une fois, deux fois, trois fois, dix fois, cinquante fois, tu as cette sérénité du riche qui sait apprécier son Shabbat, qui sait s'arrêter, qui sait prendre son temps pour apprécier les tefillot, pour apprécier.
Comprends la valeur.
Et ça veut dire, ne crois pas que celui qui est là en train de vibrer, de sauter, d'être tout rouge, il vibre plus que toi. Ne tombe pas dans ce piège. Peut-être que toi, qui as réfléchi à ce que tu fais, qui sens ce que tu fais, peut-être que tu vis. C'est comme le riche qui est là, calmement, qui coupe son entrecôte, mais qui comprend mieux l'entrecôte que l'autre qui est en train de la manger, qui sait pas ce qu'il fait. Donc vous voyez, je dis ça pour rassurer Michael. Et pour me rassurer moi aussi. Ne croyez pas que c'est quelque chose, quand je parle d'amour de Dieu, ne croyez pas que c'est quelque chose que vous n'avez pas. Vous l'avez déjà probablement. Pas surtout. C'est sûr qu'on a beaucoup de travail à faire encore. Mais on l'a déjà. C'est sûr qu'en partie, on a déjà cet amour de Dieu qui progressivement se développe. Il ne faut pas désespérer. On a cet amour de Dieu. Ce qui compte, c'est toujours utiliser l'intellect pour réfléchir, et essayer de se situer par rapport à Kadosh Baruch Hu. Alors, on va terminer le chapitre. C'est la semaine prochaine. On va expliquer qu'est-ce qui se passe quand ça ne tombe pas, quand ça ne marche pas. Alors, Vegam, je suis à la page 307. Et avec ça, on termine. Vegam et aussi. 307. Regardez ce qu'il dit l'Admor HaZaken. C'est des mots très rares dans le Tanya. En général, on dit, bon, t'as 613 mitzvot. T'as pas fait une, t'auras la deuxième, t'auras la troisième. Là, on te dit non. On te dit, là, ce que je te dis maintenant, c'est pas une mitzvah que tu peux, c'est là ou c'est là. Non, non, non. C'est là tout l'homme et sa finalité. Quel est le but de l'homme et sa finalité? Les ma'an da'at et kvod Hashem, afin de connaître la gloire de Dieu, vikar tiferet gulato, et la splendeur majestueuse de sa grandeur, ish kefi asher yuchal se'et, chacun selon ce qu'il pourra appréhender. Ça veut dire qu'à la limite, la question qu'on va te poser en haut quand tu vas arriver après 120 ans, on va te poser la question, est-ce que t'as fait, combien de misotes t'as fait, est-ce que t'as fait ci, la balance, il y aura tout, n'inquiétez pas. On ira tous au Gan Eden ou en enfer, comme vous voulez. C'est pas ça la question. D'accord?
Bon.
En tout cas, voilà. La question que Dieu va te poser, c'est pas, bon, bien sûr, il va te poser la question, est-ce que t'as fait les mitzvot? T'as fait les mitzvot? Mais Dieu, il va te poser la question, il va te dire, est-ce que t'as pensé à moi en bas? Est-ce que t'as pensé à moi? Il n'y a pas de demander est-ce que tu m'as acheté un bouquet de fleurs? Il va pas te demander est-ce que tu m'as acheté un cadeau pour mon mariage, pour mon anniversaire de mariage. Il va te demander est-ce que tu as pensé à moi? Est-ce que tu savais qui j'étais? Est-ce que je t'ai posé la question? C'est une vraie question, ça.
Enfin, pendant.
Bien sûr qu'on peut lui répondre. On va lui répondre. Ish, attention. Ish, kefi asher yuchal seet. Chaque homme, comme il peut l'appréhender. Te dit l'Admor Hazaken, il te dit, ça, c'est le but pour lequel Akadosh Baruch Hu t'a créé.
Donc nous, notre but à nous, c'est d'enlever la cloche qui nous a mis sur la tête.
D'enlever là ?
La cloche qui
nous a mis sur la tête. Prends une cloche. T'as pas de cloche. Mais t'as pas de cloche, prends une cloche.
Non, tu veux te comparer quoi ? Un minéral, un végétal ? Et sa vie pourtant, mais t'es un homme.
On a vu dans les paragraphes.
Attends, c'est extraordinaire ce qu'on est en train de vivre là. On n'est pas des bêtes. Mais c'est vrai quoi.
Quand il a créé le monde.
Un chien.
C'est pas un chien. Il est resté pareil.
Il a bien feu, tout feu.
Parce que. Donc en réalité, le monde dans lequel on est, c'est une succession de voies qui est fait pour diminuer.
Oui. Oui.
Au final, nous, ce que nous on voit, si on voyait Akadosh Baruch Hu, on serait tous des tzadikim comme Abraham Avino.
Bien sûr.
Mais comme on n'a pas cette faculté là d'être comme Abraham Avino, et donc on a ces voiles qui nous couvrent de sa présence. Au vide, d'après ce que je comprends ici, tout le but c'est de penser qu'il y a ces voiles et que s'il n'y avait pas ces voiles,
Non, le but c'est de penser que malgré ces voiles, au fond de moi, j'aime Dieu.
J'y crois.
Et d'essayer de faire un effort intellectuel pour essayer de se situer par rapport à tout ça. Donc c'est un effort constant en vérité. C'est un effort qui ne s'arrête jamais. C'est un effort. On ne peut pas se laisser vivre. Ça, c'est la dernière chose qu'on attend d'un chassid. Je me laisse vivre. Ça n'existe pas. Un chassid, il ne se laisse pas vivre. Un juif, il ne se laisse pas vivre. Il ne peut pas se laisser vivre. Un juif, il doit tout le temps être. Sur le pas de guerre. Il réfléchit. Pas réfléchir pour contrer les terrains, réfléchir. Comment je me situe par rapport à tout ça? En quoi ça m'intéresse? En quoi ça me parle? Etc. Il faut se situer. Et ça, c'est le but. Qu'ils écolent à Adam. Ça, c'est le but. Tout le but de la création de l'homme, c'est quoi? Connaître la gloire de Dieu, chacun à son niveau. On n'est pas des animaux, comme a dit Moussakos. Comme moi, Shekatouf, Be Rayam et Mana Parashat Bo. Comme c'est écrit dans le Zohar, dans Rayam et Mana la Parashat Bo. Begin de Ishtamu Danle. D'accord? Que le but pour lequel Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, c'est afin qu'on le connaisse. Dieu, il veut qu'on le connaisse. Dieu, il te dit, je veux que tu me connaisses. Je veux que t'apprennes à me connaître. Je veux que t'apprennes à me trouver. Je me cache, certes. Je me cache. Je joue à cache-cache avec toi. Mais je veux que tu me trouves. Une fois, il y a un rabbi, il était à côté de ses enfants. Il était en train de tuer la Torah et ses enfants, ils jouaient. Et les enfants, ils jouaient à cache-cache. Vous savez comment ça marche, jouer à cache-cache? C'est-à-dire, on joue à cache-cache.
Où je suis.
Et voilà, où je suis. Ah, chaud, froid, bon, ça dépend, il y a plusieurs techniques, d'accord? Bon. Et une fois, ce rabbi raconte qu'une fois, il y a un de ses enfants. Il entend un de ses enfants, hein, qui se met à pleurer. Il pleure, mais il est caché. Alors, il va le chercher. Il dit, mais pourquoi tu pleures? Il dit, je pleure parce qu'on joue à cache-cache. Mais ils m'ont pas trouvé, ils m'ont oublié. Ils sont partis faire un autre jeu. Ils m'ont oublié. Ça veut dire qu'ils m'ont pas, ils nous cherchent un peu, ils m'ont pas trouvé, ils m'ont oublié. Moi, j'attends. Allô, et personne me répond, ils m'ont oublié. Quand il a entendu ça sur Adbo, il a dit, c'est la même chose que Dieu, il dit. Dieu, il dit, moi, je me cache pour que mes enfants me trouvent. Mais au moins, les enfants, ils ont arrêté de me chercher. Alors, Dieu, il pleure. Il dit, mais vous m'avez oublié? Vous avez arrêté de me chercher? Continuez à me chercher. Pas parce que vous me voyez pas que je suis pas là, je suis là. Et Dieu, il t'envoie des signes. Mais t'es où? Mais c'est pas grave. Mais le problème, c'est quand on arrête de chercher. On est parti jouer autre chose. On l'a oublié.
Et même quand on continue à chercher, on le trouve pas non plus.
Non, mais le fait même de chercher, c'est de se situer par rapport à ça. Oui, c'est plus important. Et ça, c'est le but pour lequel Akadosh Baruch Hu nous a créé. Le but pour lequel Akadosh nous a créé, c'est pour qu'on se situe, on se situe par rapport à tout ça. Et ça, c'est le but de Mashiach aussi. C'est comme ça qu'on aura Mashiach. On aura Mashiach quand on cherche Akadosh Baruch Hu, quand on va dans la chambre, on le trouvera. Ça, c'était le chapitre 44 pour nous montrer l'importance, la grande importance, l'extrême importance de l'amour de Dieu. C'est la raison pour laquelle on a été créé, pour réfléchir, penser à Dieu et se situer par rapport à Akadosh Baruch Hu. Voilà. Vas-y.
Pourquoi il y a besoin de créer quelqu'un pour qu'il le gère?
Alors, c'est une très bonne question. Le Zohar donne deux réponses pourquoi Dieu a créé le monde. Première réponse, parce que Dieu voulait créer une demeure ici-bas. C'est la réponse qu'on a donnée plusieurs fois.
Deux secondes.
Il a une envie. Deuxième raison. Pourquoi Dieu a créé le monde? Pour que les hommes le connaissent.
Amenez une chaise. Après, on va le connaître.
Bon, ça veut dire comme ça. Bon. Première raison, c'est Dieu, il a eu un plaisir, Dieu, il a eu un désir, d'avoir des gens qui vont être en bas, le plus bas possible, et qui vont le servir quand même. C'est ça un désir, on peut pas dire qu'ils sont sur un désir.
Qui vont parler de
Dieu. Mais après, pour aller plus loin, on t'explique, on te dit que Dieu, il a une envie qu'on le connaisse. C'est un plaisir pour Dieu de voir qu'on le cherche.
Mais j'ai pas besoin avec tout ce qu'il y a dans la nature. Je le vois.
Non, il faut chercher, il faut souder.
On parle de la quête. De la quête de Dieu.
La quête de Dieu, exactement. Quand un père, il sent que son fils, il le cherche, c'est un grand plaisir. C'est un grand plaisir.
Sûr. Bon, rendez-vous dans 120 ans.
Ouais. Il y a 7 milliards d'individus. Ouais. Et d'après ce qu'ils disent, il y a